Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 19 octobre 2024 et comme tous les samedis, eh ben on va se faire notre petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, la semaine qui vient de s'écouler était assez particulière parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, on a l'impression que finalement, on n'est pas plus avancé qu'avant. Il y a eu quelques résultats, bien sûr, c'est le début de la saison, on n'est pas encore à fond dedans. Il y a eu bien sûr quelques chiffres macro, mais ce n'est pas les plus importants. Il y a eu la BCE, on le sait bien. Mais finalement, bah aujourd'hui, bah on a quand même deux, trois bonnes choses, hein. Le DAX est quasiment au plus haut de tous les temps, le S&P est quasiment au plus haut de tous les temps. Encore une fois, on est toujours dans cette ambiance où on peut se poser des questions en se disant, est-ce que réellement tout ça, c'est pour de vrai? Bah oui, c'est pour de vrai, ça va plutôt pas mal. Donc on va juste faire le bilan de ce qui s'est passé et puis se contenter de se dire que finalement, il faut pas aller contre le vent et puis juste laisser monter les marchés tant qu'ils ont envie de monter en espérant que la musique ne s'arrêtera pas par surprise. Alors tout d'abord, saison des earnings, on va essayer de faire rapidement. J'en ai parlé tout au long des morning bulls, donc il n'y a pas raison de faire un retour là-dessus pendant des heures. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que pour l'instant, ça se passe pas mal. On l'a vu au niveau des bancaires, hein. Les banques d'affaires fonctionnent toujours très très bien. Tout ce qui est opérations boursières cartonne, ce qui est aussi bon pour les marchés, puisque si ça fonctionne au niveau des opérations boursières, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur les marchés, ça veut dire que les gens investissent. Je rappellerai pour mémoire quand même que le niveau de cash des investisseurs reste extrêmement bas. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont plutôt all-in sur les actions que prudents. Donc, il y a toujours ce côté extrêmement risqué. On a vu aussi que le put-call ratio était très bas cette semaine, que les gens ne sont pas vraiment inquiets. Il n'y a pas vraiment besoin de se hedger. On a vu que la volatilité n'était pas très haute non plus. On finit cette semaine avec une triple witching, une triple échéance, mais franchement, ça n'a pas changé grand-chose vu la situation. Aujourd'hui, on est vraiment en mode FOMO. On a vraiment l'impression qu'on a peur de rater le moindre mouvement haussier. Alors, ce qu'il faut surtout retenir jusqu'à maintenant, c'est que ça va, on ne va pas aller contre le vent, les résultats sont globalement bons. On l'a vu aussi sur des boîtes comme TSMC jeudi dernier. En revanche, c'était un petit peu moins drôle sur ASML. Alors là aussi, vous pouvez vous référer à ce qui s'est passé sur ASML mercredi matin, puisque ces idiots, entre guillemets, ils ont réussi à publier leurs chiffres trimestriels trop tôt, mais en plus ils sont mauvais, donc résultat, grosse correction, un sale temps et sale époque pour ASML. Mais par contre, ce qu'il faut retenir au milieu de tout ça, c'est que pour l'instant, le feedback que l'on a, eh bien, c'est que tout ce qui se passe, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle continue de fonctionner très très bien. Donc ça, c'est plutôt rassurant puisque Nvidia est de nouveau au plus haut de tous les temps, donc pas très loin du plus haut de tous les temps. Donc les choses se passent bien. Toujours du côté de la tech, mais surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq a toujours du retard, bien sûr, c'est assez symptomatique. Hein. Pour l'instant, on sent qu'on veut bien de la tech, mais on aimerait bien être un petit peu plus confiant à ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est un petit peu encore tendu sur la tech, mais au fur et à mesure des jours qui vont venir, puisque bien sûr, les jours qui nous attendent vont nous amener plein de résultats trimestriels et on aura temps d'en discuter beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit hier, ben, moi, je ne serai pas forcément là toute la semaine, mais quand il y aura des choses importantes, je me permettrai peut-être de vous faire des petites vidéos plutôt courtes pour vous expliquer ce qui se passe un petit peu sur les sociétés et qu'est-ce qui se passe surtout au niveau des earnings. Notons encore les chiffres de LVMH. On risque de parler un peu beaucoup du luxe dans ce Swiss Bliss parce que finalement, vous avez vu, dont LVMH a eu des chiffres qui n'étaient pas bons. Évidemment, ça ralentit sur l'Asie. Évidemment, on attend toujours des nouvelles du côté de la Chine. La Chine qui parle beaucoup mais qui donne pas vraiment ce qu'on aimerait avoir, hein. Le marché s'est envolé sur ses premiers pas de stimulus il y a quelques dizaines de jours en arrière. Et depuis, eh bien, on attend d'avoir plus de détails. Et puis, comme je vous l'ai dit moult fois, eh bien, pour l'instant, on attend toujours des réponses un peu plus claires et voir à quel moment on va commencer à aider finalement le consommateur qui, lui, pourrait être appelé à prendre l'avion et aller dépenser au niveau du luxe. On a vu cette semaine que tout ce qui était horloger, ça s'est très très mal passé. Il y a eu les ventes horlogères qui ont été annoncées cette semaine en Suisse. C'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est pas bon. Alors ça va, hein, chez Rolex, chez Patek, ça continue à bien fonctionner. Mais les exportations, hein, à direction de l'Asie sont en ralentissement. Donc c'est aussi des signes comme quoi bah, les gens font plus attention, ils consomment moins ce type de produits. Et encore une fois, on a besoin qu'il y ait une relance au niveau de la Chine. La Chine d'ailleurs qui a publié son PIB cette semaine, PIB qui était plutôt meilleur qu'attendu, pas en ligne avec les attentes, mais on a vu que l'accélération du PIB avait l'air de se produire. Peut-être pas forcément à cause du stimulus, mais on voit que la Chine a l'impression de commencer à guérir peut-être, et finalement, il y a encore un petit potentiel haussier là derrière. Mais si vous regardez sur l'aller-retour qu'a fait le marché chinois ces derniers temps, eh bien, on est redevenu en zone de correction. Donc, explosion, plutôt de plus de 10% de baisse, donc on est en zone de correction sur le marché chinois et sur Hong Kong, et on s'interroge pour la suite des événements. Pour l'instant, j'ai envie de dire que la suite des événements, soit ce sera l'économie qui va se reprendre d'elle-même et ça prendra quelques mois, soit alors le gouvernement va revenir encore une fois à la rescousse pour nous aider. Mais pour l'instant, on est en pending, tout comme LVMH, tout comme des Richemont, tout comme tout ce genre de sociétés liées au luxe. La BCE, j'en ai parlé dans le Morning Bull d'hier, hein, 0,25% de baisse, c'était attendu. Tout le monde est en train d'analyser encore ces chiffres, mais a priori, on attend une autre baisse de 0,25 pour le mois de décembre. Et puis après, on verra. J'ai envie de dire qu'il y a des projections qui sont déjà faites pour aller voir beaucoup plus loin. Mais en ce qui me concerne, je vais quand même rester hyper prudent sur ce qui s'est passé et ce qui se passera sur la BCE. Madame Lagarde a monté une grande confiance. Ça ne veut pas dire que ça va durer très longtemps encore, donc ça peut tourner très très vite. On sait que c'est des gens qui sont très volatiles, ces politiciens dans ce métier-là. Ils peuvent changer d'avis comme de chemise, donc il faudra rester méfiant. Mais néanmoins, bah, la Banque centrale a fait le boulot, ce qui rassure un peu les marchés européens de nouveau, qui aujourd'hui montrent toujours quand même deux, trois signes de faiblesse par des économies européennes. Je pense toujours à l'Allemagne, même si cette semaine, l'Allemagne a quand même montré quelque chose d'un petit peu plus positif, parce que le moral des investisseurs, vous savez, ce fameux ZEW était en hausse, et donc il y avait un côté rassurant sur le fait qu'on va quand même s'en sortir, et que les Allemands veulent encore y croire, même si sur le reste, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas bien. Je pense qu'on a un peu été trop vite en besogne en oubliant les profit warnings de toute l'équipe Volkswagen, Daimler et BMW. Donc tout ça, c'est des choses qui risquent de nous venir un petit peu dans quelques temps. Toujours beaucoup de problèmes structurels en Allemagne. Donc on va peut-être pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas, si on regarde sur ce qui a été publié cette semaine, c'était plutôt constructif sur l'Allemagne. De là à dire que c'est pour ça que le DAX termine au plus haut de tous les temps, il n'y a un pas que je ne franchirai pas. En Suisse, les prix à la production étaient en baisse de 0,1% sur le mois dernier, ce qui fait qu'aujourd'hui le niveau se situe à 107,2, surtout grâce au retrait des produits pétroliers. Évidemment, on a vu que le pétrole, je vais y revenir dans 10 secondes, mais on a vu que le pétrole était bien revenu ces derniers temps, donc ça a un peu de conséquences aussi sur les prix à l'importation de la Suisse. Donc forcément, c'est plutôt encourageant. Sur une année, par contre, ben, on a dit que les prix à l'importation, les prix en général, avaient baissé de 1,3% selon l'OFS. Et puis alors, le pétrole, eh bien, le pétrole, on peut en parler des heures et des heures et des heures, mais on ne va pas perdre de temps avec ça. Le pétrole est revenu sur les 70. Maintenant, la grande question, c'est de savoir comment la guerre au Moyen-Orient, ce risque d'embrasement qu'on a au Moyen-Orient, est-ce qu'il va pouvoir se calmer maintenant que certains chefs du Hamas ont été exécutés? C'est la grande question qu'on va se poser. C'est ce que les Israéliens sont prêts à s'arrêter. Ben ça, il faudra surveiller ces prochains temps. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Si vraiment, il y avait vraiment une intention d'arrêter la guerre, à ce moment-là, on pourra dire qu'il y a plus de tension, il y a moins d'embrasement. Résultat, le pétrole peut rebaisser, mais pour l'instant, il reste quand même accroché à la zone des 70 dollars sur le WTI. Et puis, ben, pour fêter cette fin de semaine, l'or est au plus haut de tous les temps. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? On sait que l'or, c'est le refuge contre l'inflation, et c'est aussi la valeur refuge dans tous les sens. Ce qui veut dire que si les gens achètent de l'or, c'est un, qu'ils ont peur que l'inflation reparte. On l'a vu récemment que ça repartait quand même gentiment aux États-Unis. Soit simplement, ils veulent se protéger contre je ne sais pas quoi, parce que si embrasement il y a, je suis pas sûr que le fait d'avoir des lingots d'or dans la cave, ça va changer grand-chose. Et puis, dernier chiffre, autant les chiffres du déficit, autant les chiffres du budget français font peur, autant l'inflation ne fait plus peur du tout, puisque le mois dernier, on était à 1,1% en France. Ils ont donc réussi à juguler, à tenir l'inflation. Madame Lagarde le disait encore l'autre jour. Pour elle, l'inflation, ils sont en train de leur tordre le cou. Bah, les Français ont déjà réussi à tordre le cou à l'inflation. 1,1%, ça fera au moins un truc que Macron a réussi à faire durant ces deux quinquennats. Après, n'oubliez quand même jamais que l'inflation est une mesure sur un instant T d'une hausse des matières premières ou des produits de consommation. Mais c'est sur une période donnée. Et quand on vous dit que l'inflation baisse de 3 à 2, ça veut dire que la progression des prix est moins forte. mais il progresse quand même. Il progresse pas de 3%, mais de 2%. Et si vous cumulez toute cette hausse d'inflation qu'on a eue depuis 4 ans, bah on est toujours à des niveaux qui sont, ça dépend les produits dont on parle, mais on frise quand même entre 20 et 30, voire 40% sur certains produits de hausse. Et je pense pouvoir le dire assez ouvertement, d'ailleurs on peut essayer de faire un sondage sur la vidéo, combien d'entre vous ont eu une hausse de revenus de 30%, on va dire, sur les 4 dernières années, juste par curiosité. En ce qui concerne les performances, alors si vous regardez sur une semaine, eh bien, vous verrez que bah, le pétrole est en baisse, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Le Philadelphia Semiconductor Index est en baisse de 2,46%. Bah, ça, c'est les raisons basées sur ASML. Donc ASML a quand même fait peur au secteur en relatif, puisque les semi-conducteurs, le reste des semi-conducteurs, eh bien, on s'attend à des années plus compliquées. En revanche, tout ce qui est intelligence artificielle devrait continuer à fonctionner plutôt pas mal. L'Asie, donc Hang Seng, Nikkei, ben c'est comme je vous le disais, hein, pour l'instant on revient un petit peu en arrière en se disant mais est-ce que le stimulus suffira? Et puis alors pour le reste, eh bien, le CAC 40 plus 0,34%, un peu moins bien que les autres parce que dedans vous avez LVMH qui pèse quand même pas mal après la contre-performance de ces derniers jours. Le Dow Jones au plus haut de tous les temps. Le S&P 500 pas très loin du plus haut de tous les temps, mais 0,6% sur la semaine pour l'instant. Le SMI prend 1% sur la semaine. Le DAX 122, etc. Donc oui, ça se passe pas trop mal. L'or, comme je vous le disais, au plus haut de tous les temps. Et le Bitcoin a salué quand même, qui reprend 8,5% ces derniers jours, parce qu'on se dit tout simplement qu'avec les élections américaines qui arrivent, il pourrait y avoir des bonnes surprises au niveau du Bitcoin, surtout que si Trump est élu, ça devrait le favoriser un peu plus que les autres. Et selon les derniers sondages, ça se resserre. Alors c'est extrêmement difficile de savoir qui va gagner, bien sûr. Mais quand on regarde un peu les chiffres, c'est 50-50, on va dire. Mais selon les experts, et si vous regardez les sites de droite, eh bien sûr, M. Trump est en tête. Et les sites de gauche, tout le monde trouve que Kamala Harris est absolument géniale. Et c'est donc elle qui est en tête. Les composants du SMI, alors vous voyez, la semaine, c'est la deuxième colonne. Donc Richemont qui perd 2%, ben ça, les raisons sont évidemment l'histoire du luxe. UBS qui prend 3,67%, merci à ce qui s'est passé au niveau des bancaires aux États-Unis, malgré que la FINMA leur court après. Nestlé qui rebondit 2%, Logitech qui prend 4%, Roche qui prend 1,6%, et puis Givaudan qui perd 2,12% sur la semaine. Novartis qui prend 1,59%. Donc grosso modo, les big names s'en sortent pas trop mal cette semaine. Ce qui fait que ça aide aussi le SMI à se retrouver à des niveaux plutôt corrects. Donc vous voyez, alors je tiens à préciser que quand j'enregistre cette vidéo, il est vendredi, fin d'après-midi, les marchés sont encore ouverts en Europe. Donc évidemment, si tout d'un coup il y a des grosses variations après coup, j'aurai peut-être des données qui sont un petit peu faussées. Mais comme vous le savez, à l'heure où vous verrez cette vidéo, moi je serai dans l'avion, donc je peux pas tout faire en même temps. Bref, le SMI, donc vous voyez qu'on est, on termine plutôt dans les hauts de la semaine, mais ce qu'il faut constater, c'est que l'indice pour l'instant, il a l'air de buter sur la zone des 12 350, plus ou moins, chaque fois qu'on arrive là, il revient. Et vous voyez que là, on est en train de combler un gap ici, donc ça c'est une bonne chose pour le SMI, tout d'abord. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va continuer et quelle sera la suite des événements. On a toujours une résistance au niveau des 12 000, il faudra qu'on aille rechercher ce niveau-là, puis après on a cette fameuse résistance là qui vient à 12 569. Mais pour l'instant, bah, on va pas se plaindre et on dirait que la Suisse a vécu une relativement belle semaine. Pour une fois, ça nous change un petit peu. Mais encore une fois, vous l'avez vu, hein, ça se voit tout de suite dès que les planètes sont alignées avec les big names, ça va beaucoup mieux. Le S&P 500, comme vous voyez, alors lui, bah, on n'est pas au plus haut de tous les temps. Là, pour l'instant, on verra ce vendredi soir où est-ce qu'on termine. Mais vous voyez qu'on a tenté une espèce d'inversion il y a quelques jours, mais on repart. Hein. Donc maintenant, ce qu'il faut vraiment se concentrer, c'est les highs ici qui passent par 5800, 5900. 5900 plus ou moins, si on casse les 5900, on devrait pouvoir accélérer. Je vous rappelle qu'on a toujours cette figure, hein, ce triangle ascendant qui est là. Donc si on confirme la cassure, ce qu'on est en train de faire pour l'instant, on a encore un petit bout pour grimper sur le S&P. Et quand on voit pour l'instant la qualité des résultats, du peu de résultats qui sont sortis, on est quand même à à 80% de chiffre meilleur que les attentes, ça peut laisser augurer quelque chose de relativement constructif. Le Nasdaq 100, alors lui, il patauge dans la semoule pour l'instant, vous voyez, on a cassé cette résistance, on est allé combler notre gap tout en haut ici sur le Nasdaq 100, et pour l'instant, on n'arrive pas à donner le dernier coup de collier pour aller chercher les plus hauts historiques. Et les plus hauts historiques seront dictés par ce graphique-là, probablement, le SOX. Pour l'instant, vous voyez qu'on avait cette magnifique tendance haussière qui a cédé. Et on voit vraiment que maintenant, on a plutôt tendance à buter sur les résistances maintenant qu'on est passé en dessous. C'est pas de très très bon augure. Il va falloir vraiment délivrer ces prochains temps au niveau des autres semi-conducteurs. Parce que après les bonnes nouvelles de TSMC et les mauvaises nouvelles de ASML, eh bien, il va falloir que les autres montrent clairement que la tendance n'est pas dans cette direction. Mais s'il y a encore quelques déceptions qui corroboreraient les dires de ASML, ça risque d'être un petit peu violent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a constaté une chose quand même la semaine dernière, c'est que quand vous avez des bonnes nouvelles sur l'IA, eh bien, les titres ne montent plus vraiment autant que ça. Alors que les mauvaises nouvelles ont un impact beaucoup plus violent. Ça y aura quand même la performance de Taiwan Semiconductor sur la semaine. Le Dow Jones est au plus haut de tous les temps. Lui, c'est le héros de la semaine. Bon, à l'intérieur du Dow Jones, il y a 2-3 titres qui tirent, qui continuent à tirer relativement pas mal. Des Apple qui vont bien, des Cisco qui ont été upgradés. Donc ceci justifiant un peu cela, mais c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est hyper rassurant, parce qu'en général, dans les gros bull market, en général, c'est les gros indices qui tirent. Le Dow Jones, c'est que, bon, c'est des big caps, mais c'est que 30 titres et c'est jamais très très représentatif. Alors ne nous faisons pas non plus trop d'idées sur le Dow Jones. En Europe, le DAX au plus haut de tous les temps. Vous voyez, alors, confiance du consommateur, c'est limite euphorique le DAX. Alors il y a des choses qui vont bien à l'intérieur, mais encore une fois, à l'économie, méfiance. Le CAC 40, lui aussi, en relativement bonne forme sur les 3 dernières séances de la semaine. Pourvu que ça dure, on est en train d'essayer de casser la moyenne mobile des 200 jours. J'ai envie de dire que si le CAC termine la semaine dans 2 heures comme maintenant à 7600 points, je pense qu'il y a un peu d'espoir pour aller chercher un peu plus haut et chercher en haut de ce range. Là, on est en train de casser la moyenne mobile des 200 jours. Ça serait enfin une bonne nouvelle, même si on a toujours un peu peur des éventuelles instabilités politiques à venir. Le pétrole, alors vous voyez, le pétrole, bah, ça casse. Hein, donc je vous en ai parlé très brièvement tout à l'heure en introduction. On a cédé depuis que finalement les Israéliens n'ont pas répliqué à la première attaque de l'Iran. Et donc depuis, on se dit, ils vont répliquer, ils vont pas répliquer, ils vont répliquer, ils vont pas répliquer, ils vont répliquer, ils vont pas répliquer. Pour l'instant, ils répliquent pas, et moins ils répliquent, plus le pétrole est vendu, sans compter que maintenant, un des objectifs principaux d'Israël, à savoir exterminer le management du Hamas, a été atteint. Résultat, eh bien, le pétrole est en train de baisser. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est à 69,11, qui correspond exactement... Alors, à l'instant T, à un support dans cette zone-là, vous voyez cette ascendance-là, ici, cette tendance haussière, on est en train de se poser dessus et de la tester. Donc, si ça casse là, alors là, attention, parce que si ça devait casser ici, on peut tout de suite imaginer des mouvements d'une ampleur un petit peu plus importante sur le baril, c'est-à-dire des mouvements comme ça, hein, c'est un triangle aussi. Tac, tac, et si on répercute notre triangle, vous voyez que ça peut aller plus bas. Et on revient finalement sur les 60, 50, bon là c'est 55$, mais sur les 60-55 par là autour, c'était un peu ce qu'on avait comme target avant. N'oubliez pas non plus, qu'il y a toujours pas mal de stress au niveau du pétrole. Et puis surtout, il y a aussi pas mal de banques d'affaires qui sont venues upgrader le baril en disant que ça pouvait facilement exploser en direction des 95 voire 100$ ces prochains temps, si ça y avait un embrasement au Proche-Orient. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'embrasement. Et je termine avec le seigneur du moment, l'or. Voilà, il n'y a rien à dire techniquement. Ben, on a cassé. On a cassé, il n'y a pas de raison de se poser d'autres questions. J'ai envie de vous dire que par rapport à ces configurations de triangle ascendant qu'on avait ici, ben, là où on casse, pour moi, on va à 2850, 2900 sur l'or. 3000, pour l'instant, il n'y a pas techniquement de choses qui nous dit qu'on va y aller, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment la chose où tout le monde est plus ou moins d'accord. Quand on vous dit, est-ce que vous voulez acheter de l'or? En ce moment, c'est assez populaire, même si c'est, à mon sens, pas le truc le plus fun de la planète. On termine avec les vedettes de la semaine. Enfin, on termine avec quelques-unes quand même, mais on commence tout de suite avec Nestlé. Alors, Nestlé, vous l'avez vu, j'en ai parlé dans le Morning Bull Live hier. Donc on va pas revenir en gros dessus, mais les chiffres n'étaient pas extraordinaires, la croissance organique était plus faible que prévu, et Nestlé, ils aiment la croissance organique. Le CEO a néanmoins réussi à rassurer le nouveau CEO, a néanmoins réussi à rassurer les investisseurs, ce qui fait qu'il y a quand même un peu d'achat sur Nestlé qui se retrouve dans une meilleure situation qu'elle ne l'eût été il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous rappelle que c'est l'action qui est le plus détestée à l'intérieur du SMI, mais là, on semblerait être en train de dire que peut-être il y a un truc qui est en train de changer et qu'il ne faudra pas s'entêter trop longtemps si elle venait à changer de direction. Vous voyez le graphique de Nestlé, hein, alors il n'y a pas grand-chose à regarder. Pour l'instant, la tendance est tellement établie que je ne vais pas vous faire un dessin sur d'où ça vient, cette tendance baissière. Mais en tous les cas, vous voyez que hier on a eu ce gros rebond, que pour l'instant, on hésite, on est allé chercher la moyenne mobile des 50 jours à 86,91. Il va falloir confirmer ça très rapidement, sinon ça risque d'être un tout petit peu embêtant. Si vraiment on venait à revenir en direction des plus bas, c'est-à-dire ici, qui correspond plus ou moins à ce support-là, si on revient là et on casse en dessous, alors là, ça veut dire qu'il y a une démission totale sur le titre pour le moment. ABB également a sorti ses chiffres, vous voyez sur le graphique, exactement la même configuration que Nestlé, bon, sauf que ils sont plutôt dans une tendance plutôt positive, donc ABB termine relativement bien hier, il faudra confirmer ces prochains jours. C'était pas non plus, waouh, complètement délirant les résultats, mais on va dire relativement constructif, même si certains analystes ont émis deux, trois doutes par rapport à la qualité de ce qu'ils ont publié ce trimestre. On peut également parler de Schindler qui a sorti des relativement bons chiffres, alors compte tenu de ce qu'on attendait, parce que finalement Schindler, vu les problématiques de construction en Chine, eh bien, ils ont assez mal vécu cette période, les chiffres n'étaient pas extraordinaires, mais il faut quand même reconnaître que l'un dans l'autre, eh bien, c'est pas catastrophique ceux qui nous ont sortis, et du coup, eh bien, il y a un regain d'intérêt sur le titre. Le titre se comportait très bien hier, et puis surtout, la compagnie a annoncé un rachat d'actions de l'ordre de 500 millions de dollars, et donc ça fait toujours plaisir, ce qui fait que pour l'instant, Schindler se comporte relativement bien. Alors vous voyez Schindler, là c'est le bon au porteur, qui s'envole après les résultats, donc on revient de loin quand même, hein, parce que Schindler était à 221 il n'y a pas si longtemps que ça, on était encore cet été, et aujourd'hui on se traite 40 francs plus haut avec une très belle tendance ascendante qui se dessine et qui se confirme sur Schindler pour le moment. Et encore, tout ça, si on tient compte du fait que l'environnement est pourri à cause de la construction qui a le trouillé mettre à zéro en Chine. Ça, c'est Bossart, c'est une boîte qui fait des systèmes de fixation. Alors, chiffres catastrophiques qui sont sortis, nettement en dessous des attentes, ralentissement, coupe dans les prévisions et en gros des commentaires qui viennent de la communauté des analystes qui disent qu'il n'y a absolument rien à attendre sur Bossart pour l'instant. On notera encore que Doc Morris a amélioré ses recettes au troisième trimestre, ils attendent néanmoins une perte opérationnelle pour toute l'année 2024 et ils vont en l'occurrence fermer un centre de logistique à Halle en Allemagne, donc on coupe les coups, c'est pas l'euphorie non plus, on attendait tellement de cette société lors de la mise en place des ordonnances électroniques en Allemagne, qu'on voit qu'on est revenu à un niveau qui est un petit peu qui fait un petit peu peur pour l'instant, donc pas grand chose à attendre non plus de Doc Morris pour le moment. On est en mode on coupe les coups et on serre les fesses jusqu'à la fin de l'année. Voici le graphique de VAT Group. Alors VAT Group a publié ses résultats cette semaine. Vous voyez que la chute était assez épique au tout début de semaine. Ça c'est simplement eux, ils fabriquent des pompes à vide et ils travaillent en collaboration avec le secteur des semi-conducteurs. Résultat, vous avez ASML qui vous annonce un truc pareil, vous avez un peu tous les secteurs et tout ce qui était parallèle autour qui se sont fait déglinguer, et donc vous avez donc VAT qui se prend une claque monumentale et qui passe de 425 francs suisses à 374 à l'heure où je vous parle. Les résultats, il y a eu 2 jours de baisse à cause de l'effet ASML, et finalement le troisième jour c'était les résultats, mais ça avait tellement baissé que finalement il n'y avait plus grand chose à faire. Donc on est au fond du trou, on est revenu grosso modo sur les bas, il faudrait qu'on arrive surtout à ne pas casser ces niveaux de support en dessous des 350, on va dire, pour avoir encore un petit espoir sur VAT. Mais en tout cas, vous voyez que depuis cet été, c'est un peu la misère chez VAT. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment des signes d'amélioration. Pour les upgrades et downgrades de la semaine, on notera que Givaudan a vu son objectif de prix revu à la hausse par UBS. que Richemont a été downgradé de buy à neutre chez Goldman Sachs pour les raisons qu'on peut imaginer, et Geberit est passé de neutre à buy également chez Goldman Sachs. Ça, c'était les trois principaux upgrades de la semaine. Il y a encore eu un petit upgrade de la part de Royal Bank of Canada sur Nestlé, mais c'est un petit peu la pêche à la ligne alors que le titre est au fond du bac pour l'instant. Voilà en gros ce que l'on pouvait dire de ce Swiss Bliss. C'est une semaine qui était relativement constructive et plutôt positive, encore une belle semaine dans le vert. On arrive gentiment sur la fin de ce mois d'octobre. Généralement, c'est un mois qui se passe plutôt pas mal, sauf à les mois quand il y a des élections américaines. C'est le cas, donc c'est peut-être pas encore terminé. On peut encore se faire secouer. Comme je le disais hier dans le Morning Bull, je suis en vacances la semaine prochaine. Et en général, quand je suis en vacances, il se passe des trucs, sait-on jamais. Mais c'est vrai que la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, et j'en parlais encore avec quelqu'un il y a quelques jours, pour la préparation d'une conférence que je donnerai au mois de novembre, eh bien, aujourd'hui, on a cette espèce d'engouement sur les marchés, et les gens ne se posent plus aucune question, il faut juste acheter le marché, attendre et revendre plus haut et gagner beaucoup d'argent, et plus personne ne se pose de questions. On sait que par moment, c'est des chocs exogènes ou des grosses surprises qui font que les marchés se font casser la gueule. Pour l'instant, il n'y a rien. On s'était dit, ouh, la Russie, l'Ukraine, c'est compliqué. On a oublié. On s'était dit, ouh, l'inflation, c'est compliqué. Bah, on a oublié. On s'est dit, ouh, la baisse des taux, c'est compliqué. Bah, on a oublié. Les conflits israélo-palestiniens, iraniens, on a oublié. Aujourd'hui, franchement, on cherche un petit peu les raisons qui pourraient faire baisser le marché. Je regardais encore les interviews, les débats et les reportages sur Trump et Kamala Harris. Encore une fois, vu de l'extérieur, quand vous voyez ce qui est en train de se passer, franchement, ça donne pas envie d'avoir ni l'un ni l'autre à la présidence. Elle est absolument nulle. Lui, il est proche de la folie, j'ai l'impression. Donc franchement, ça revient toujours sur la même chose. Hein. Si vous me laissez le choix entre Kamala Harris, Donald Trump ou une chèvre, bah moi, je voterai pour la chèvre. Bah, les marchés, on verra comment ils vont se comporter ces prochains temps. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Moi, je vous l'ai dit, cette semaine, ce sera une semaine surprise. Je ferai des vidéos quand je peux, où je peux, en fonction d'où je suis. Et puis, je vous retrouve de toute façon pour un Swiss Bliss samedi prochain, puisque je rentre avec l'avion samedi matin. Donc, entre deux, portez-vous bien. Profitez de tous les rayons de soleil qui arrivent. D'ailleurs, moi, je suis sorti de mon studio parce qu'aujourd'hui, il faisait soleil. Passez une très belle journée, un très bon week-end pour ceux qui sont en vacances, parce que je sais que c'est des vacances des jeunes voix. Profitez des vacances. Et puis, on se revoit de toute façon très bientôt. Je suis jamais très, très loin. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye.